Bonjour chers internautes. Alors je vous propose ce moment de commentaire méditation en ma compagnie. Mais avant tout, donc je vous suggère de prier l'Esprit Saint pour qu'il nous aide dans ce moment. Je te prie Seigneur, je te prie Saint-Esprit, afin que tu daignes écarter tout nuage, toute ténèbre, qui par le fait de nos péchés pourrait obscurcir notre vue. Donne-nous l'intelligence spirituelle et merveilleuse de ta parole, selon le mot du psalmiste, « Ouvre mes yeux, et je contemplerai les merveilles de ta loi. » Donc je vous suggère un petit commentaire de l'épître de Jacques au chapitre 1, versets 17 à 27. Donc en voici la lecture. Frères, les dons les meilleurs, les présents merveilleux viennent d'en haut. Ils descendent tous d'auprès du Père de toutes les lumières. Lui qui n'est pas comme des astres, sujet aux mouvements périodiques ni aux éclipses passagères, il a voulu vous donner la vie par sa parole de vérité pour faire de nous les premiers appelés de toutes ses créatures. Accueillez donc humblement la parole de Dieu semée en vous. Elle est capable de vous sauver. Mettez la parole en application, ne vous contentez pas de l'écouter. Ce serait vous faire illusion. Devant Dieu, notre Père, la manière pure et irréprochable de pratiquer la religion, c'est de venir en aide aux orphelins et aux veuves dans leur malheur, et de se garder propre au milieu du monde. Donc ici, nous avons le début, pas le tout début, mais disons le premier chapitre de l'épître de Jacques. Alors, on ne va pas dire grand-chose sur l'épître de Jacques, si ce n'est que Jacques s'adresse à des judéo-chrétiens et on reconnaît certains accents assez typiques de l'Ancien Testament, venir en aide aux orphelins et aux veuves. Lui n'hésite pas à employer le mot « religion », ce qui est un mot qui n'est pas employé par Paul. On verra ce qu'il entend par le mot « religion ». Et il insiste bien sur le fait, bien sûr, de se laisser transformer par Dieu, mais aussi d'agir et de mettre sa foi en pratique, ce qui est typique de Jacques. Alors cet épître est un curieux mélange donc de ce judéo-christianisme qui a... comment dire, était très présent au début de la foi chrétienne. Il suffit de lire les Actes des Apôtres et les Épîtres de Paul. Ça n'a pas toujours été facile, d'ailleurs, pour l'Église primitive, d'essayer d'intégrer ou de marier le paganisme ou les gens issus du paganisme avec les judéo-chrétiens. Donc, cette épître s'adresse plus particulièrement à des judéo-chrétiens, donc des juifs convertis à la foi chrétienne. C'est à la fois donc des accents très anciens qui, dans cette épître que l'on retrouve de l'Ancien Testament. On sent que il y a des choses très très primitives, comment dire, dans la foi exprimée par Jacques. On sent que là on touche dans les débuts du christianisme, même si l'épître Jacques n'a pas été écrit comme le premier écrit du Nouveau Testament. On sent des accents qui remonte très loin, aux origines du Nouveau Testament. Mais d'un autre côté, cet épître a été aussi écrit, mise par écrit de assez tardivement, probablement vers l'an 70 ou 80 après Jésus-Christ. Donc nous avons ce curieux mélange, à la fois d'une tradition qui remonte assez loin, mais d'une mise écrite plus tardive, qui est assez typique d'ailleurs des écrits de l'Ancien Testament, même si ici nous avons un écrit du Nouveau Testament. Puis bon, des évangiles hein, qui ont été prêchés d'abord 20 à 40 ans avant d'être mis par écrit. Donc voilà, passons maintenant aux commentaires que nous allons faire linéaires. Donc frères, Les dons les meilleurs, les présents merveilleux, viennent d'en haut. Ils descendent tous d'auprès du Père de toutes les lumières, lui qui n'est pas, comme les astres, sujet aux mouvements périodiques ni aux éclipses passagères. Alors déjà, là, nous avons quelque chose auquel on n'est pas habitué dans le Nouveau Testament, cette façon de parler, notamment cette référence aux astres. Bon, Paul en parle un peu à Romains 8, mais bon, c'est assez inhabituel. Alors d'abord, sommes-nous convaincus, donc je vais prendre une interprétation d'abord assez proche du texte, et puis après les interprétations assez typiques, spirituelles, allégoriques, centrées sur le Christ, morales, centrées sur notre vie quotidienne et intérieure, et anagogiques, centrées sur la vie éternelle. Donc, le texte nous dit d'abord, bon, évidemment, ce n'est pas trop dur à comprendre, que nous avons, que ce qu'il y a de meilleur, donc pour notre vie, hein, vient du Père. Et il oppose ça au mouvement périodique des astres et aux éclipses passagères. Alors, pourquoi opposer ces deux choses? A priori, on se demande. Bah, il faut savoir qu'à l'époque de l'Empire romain dans lequel la Judée se trouve, eh bien, il y avait des tas de choses magiques, de l'astrologie, etc. Cette époque que l'on retrouve malheureusement de nos jours, avec une astrologie de plus en plus présente. Alors déjà, j'espère ne pas vous l'apprendre, mais l'astrologie est incompatible avec la foi chrétienne. Bah, tout simplement parce que si l'on croit, comme le dit Jacques, que le Père est la source de toutes les lumières et qu'il n'est pas sujet au mouvement périodique comme les astres, à quoi cela sert de croire, parce que c'est une croyance, l'astrologie, ce n'est pas une science. L'astronomie est une science, pas l'astrologie. De croire que notre vie dépend des astres. Et quand bien même cela pourrait être vrai, nous chrétiens, maintenant nous sommes directement sous l'autorité du Père, par son Fils Jésus. Donc ne croyez-vous pas que Dieu est plus puissant que les astres? Si vraiment les astres continuent à avoir une influence sur nous, alors on se demande à quoi sert d'être chrétien et si Dieu est vraiment tout puissant. Parce que quand on devient chrétien, on est tout de suite, et Romains 8 le développe beaucoup, au bénéfice de la puissance du Père. Donc il faut le croire. Et donc l'astrologie est à bannir absolument, parce que en devenant chrétien, nous sommes une nouvelle créature, donc il n'y a plus de caractère qui est formé par les étoiles, etc. Et notre avenir ne dépend pas des étoiles, mais du Christ. Donc, Jacques nous montre que tout est passager en dehors de Dieu et que maintenant si on a élargi le sujet que tout ce qui peut faire dans notre vie des points d'ancrage s'ils ne sont pas en Dieu ils sont voués à être passagers même avant la mort. Donc il faut vraiment savoir bâtir notre maison comme dit Jésus sur le roc. Et justement il y a deux façons de vivre notre vie quotidienne. D'abord, en la fondant sur tout ce qui peut être passager, alors prenons nos relations avec les autres, prenons aussi notre combat par rapport à nos propres défauts. Si nous en sommes encore au stade de croire qu'il y a des trucs, si nous mettons notre confiance en nos propres forces, parce que c'est un peu comme les astres, tout ça c'est passager, si nous mettons d'abord notre confiance en nos propres forces, d'abord notre confiance en ce que nous faisons, ou dans toute autre chose, hein, je ne veux pas faire, ça peut être notre intelligence, une amitié trop exclusive, etc., une stratégie, une technique. Si nous avons tout ça comme fondement de notre vie, alors nous sommes condamnés à être ballottés, comme les éclipses passagères. Il faut croire, et en sommes-nous convaincus, que c'est du Père que viennent toutes les choses. Ainsi, quand nous sommes confrontés à nos propres défauts, à ceux des autres, eh bien, il faut croire qu'il faut mettre notre foi en le Père. C'est ce qu'il nous dit de faire. C'est la volonté du Père qui va nous aider dans la vie quotidienne à vraiment asseoir les choses sur le roc. J'en profite pour ici montrer que le roc, c'est selon ce que Jésus a dit, hein. Le roc, c'est lui-même, c'est Jésus. Ce que le Père nous envoie, c'est son Christ. bâtissons-nous notre vie sur le Christ. Parce que si nous sommes encore au stade de vouloir, par nos propres forces, essayer de gagner notre ciel ou essayer de gagner les faveurs de Dieu, là aussi nous tombons dans les éclipses passagères. Donc tout ça, c'est du vent. Il faut vraiment être persuadé que c'est notre vie de prière, notre abandon à Dieu, se nourrir de sa présence par son Fils, en lisant sa parole, que nous allons bâtir sur le roc. Bâtir sur le roc dans notre vie quotidienne, d'abord par rapport aux autres. Parce que si nous comptons sur nos propres forces pour influencer les autres, pour gagner leur faveur, pour les amener à Jésus, tout ça c'est passager, tout ça s'effondrera. Il faut vraiment que nos réactions par rapport aux autres, notre façon de vivre au quotidien, soit nourrie du Père. Du Père, donc, qui nous envoie, le Père de toutes les lumières, et qui nous envoie les présents merveilleux qui viennent d'en haut. Jésus lui dans Saint Jean, c'est lui le présent, c'est lui le pain de vie qui vient du ciel. Donc si nous bâtissons notre vie sur une relation avec le Christ, qui nous montrera comment vraiment avoir une relation personnelle avec le Père, eh bien alors notre vie quotidienne va changer. Au lieu de nous laisser aller à la rancune, à la colère, à des attitudes bien humaines pour gagner les faveurs des autres, pour convaincre, eh bien nous serons pleins d'amour pour eux, pleins de miséricorde, parce que nous serons bâti notre attitude sur la patience, celle qui consiste, cette patience, à croire, dur comme fer, parce que c'est la vérité, que le Père est là, que nous ne sommes pas seuls et que par son Fils, il travaille dans la durée, et que même si les choses ne se voient pas tout de suite, il travaille dans la durée, et que c'est le Père, par son Fils, qui nous envoie toutes choses, tout présent merveilleux. Donc, croyons-nous vraiment, quand nous voulons amener des gens à Christ, à Jésus-Christ, quand nous voulons vraiment avoir des réactions par rapport aux autres, quand nous voyons des choses qui nous blessent, croyons-nous vraiment que la grâce de Dieu est là et qu'il travaille dans leur cœur. Quand on voit nos propres défauts, au lieu de nous en affliger, d'essayer à la force du poignet de nous changer, croyons-nous vraiment que nos efforts n'ont de sens que si vraiment, vraiment, ils sont tournés, ces efforts, vers le Père, qui va nous envoyer la force. Donc, au lieu d'agir par des moyens bien humains, prenons les armes de l'amour et de la patience. C'est ça vraiment, se laisser pénétrer de cette vérité, que les dons les meilleurs, Jésus-Christ, donc le présent merveilleux qui vient d'en haut, eh bien, qui descend auprès du Père, de toutes les lumières, eh bien, lui n'est pas comme les astres. Donc, Jésus, c'est notre force. Alors, donc, si nous sommes assis sur le roc, eh bien, nous ne serons pas tentés de glisser vers des moyens trop humains, de colère, d'essayer d'influencer les gens, d'essayer la force du poignet de changer, etc. De même, notre façon de vivre, soyons convaincus que ce monde, comme le dit Paul dans 1 Corinthiens 7, ce monde est passager, comme les éclipses, comme le mouvement des astres, ce monde est passager. Et qu'il faut vraiment bâtir notre vie en regardant vers le ciel, vers les valeurs du ciel. Et Jésus nous a donné les valeurs du ciel. L'amour, la patience, la prière, etc. Relisez l'évangile. Donc voilà. Ensuite, le texte nous dit, le Père a voulu nous donner la vie par sa parole de vérité pour faire de nous les premiers appelés de toutes ces créatures. Alors c'est très surprenant parce que quand vous lisez l'épître aux Colossiens, je crois que c'est le chapitre 1, les premiers appelés de toutes les créatures, c'est appliqué à Jésus, qui est le premier-né par rapport à toute créature. Donc nous sommes configurés au Christ. Vous voyez comme la Bible s'éclaire par elle-même. Et le Père, donc, a envoyé son Fils en éclaireur. Il nous a donné donc sa parole de vérité, Jésus-Christ, et il a fait de Jésus le premier appelé. Il a fait de Jésus le premier homme. C'est tout ça développé dans l'épître aux Romains aussi. Jésus est le premier homme sauvé, parce que Jésus est pleinement homme, ne l'oublions pas. Jésus, c'est lui qui, de sa pleine liberté, a dit oui au Père jusque sur la croix, et parce que librement un homme a su jusqu'au bout s'abandonner au Père, le Père a pu déverser sa grâce sur l'homme avec un grand H, sur l'humanité. Et nous sommes ces relais de ce chemin qu'a ouvert le Christ, lui qui a dit qu'il était le chemin, la vie, la vérité. Nous sommes ces relais. Et nous-mêmes, comment être les premiers appelés de toutes ces créatures? Eh bien, c'est en vivant comme je viens de le dire. C'est-à-dire que nous savons, nous avons la vision que Dieu est à l'action en ce monde et dans les cœurs de ceux pour qui nous prions, dans nos propres cœurs et au cœur de ce monde. Donc notre attitude doit être une attitude d'amour et de patience, de bienveillance, fort de la conviction que Dieu agit, et que cette action de la grâce est soutenue par notre prière et notre amour envers ceux pour qui nous prions, envers nous-mêmes, nos zones d'ombre par rapport auxquelles nous prions. Alors vous voyez, l'attitude est totalement différente. Au lieu d'être stressé, d'essayer de convaincre, d'être agressif, nous sommes pleins de bienveillance, souriants, parce que nous sommes sûrs que la victoire finale appartient au Christ. C'est tout le message de l'Apocalypse d'ailleurs. Donc en ce sens-là, nous sommes les premiers appelés, parce que par notre attitude de bienveillance et de prière, d'intercession, eh bien nous ouvrons un chemin. Ce chemin que le Christ lui-même a ouvert, nous le prolongeons. C'est ce que dit Paul dans Colossiens chapitre 1. Il dit qu'il complète en sa chair les souffrances qu'il manquait au Christ. C'est-à-dire que dans les communautés où il était, il prolongeait dans l'actualité de sa vie ce que le Christ avait commencé sur la croix. Eh bien nous sommes appelés à faire la même chose. Pour les gens pour qui nous prions, nous sommes les premiers appelés, nous sommes un chemin, un phare, nous sommes des éclaireurs. Pour nos propres zones d'ombre, en toute conscience que nous prions, nous sommes éclaireurs, nous sommes, nous ouvrons le chemin à l'intérieur de nos propres cœurs pour que nos zones d'ombre s'ouvrent à la lumière. Pareil pour nos frères, pareil pour ce monde. Nous sommes des chrétiens, nous devrions vivre pleinement notre vie sur terre, parce que nous savons qu'elle n'est qu'un tremplin à la vie éternelle. Si nous vivons cette vie dans cette optique, eh bien la vie éternelle, c'est vraiment le centre, le but, la vraie réalité. Dans ce cas-là, nous avons le recul nécessaire pour éviter l'ambition, l'orgueil de marcher sur les autres et d'être au service des autres dans cette vie. En ce sens-là, nous sommes les premiers appelés. C'est tout le sens de la vocation religieuse aussi, hein. Montrer au monde notre avenir céleste. Eh bien tous, même si nous ne sommes pas religieux, nous sommes appelés à montrer au monde, par notre qualité de vie, par nos buts différents qui sont centrés sur le ciel, ce qu'est la vraie vie. Et en ce sens-là, nous ouvrons un chemin de lumière, nous ouvrons un chemin à la grâce du Christ qui était déversée à la croix. Alors continuons. Accueillez donc humblement la parole de Dieu semée en vous. Elle est capable de vous sauver. Rien que ça, ça devrait être appris par cœur. D'abord, le message littéral. Lisons-nous la parole de Dieu. Pour l'accueillir, il faut la lire. Lisez-vous la Bible. Lisons-nous la Bible. Et quand nous la lisons, est-ce que nous la lisons humblement, avec un regard de foi, étant persuadé que cette parole est chargé de l'esprit? Jésus l'a dit, ses paroles sont vie et esprit. Il l'a dit en Jean chapitre 6, sommes-nous persuadés que cette parole fait son œuvre en nous quand nous la méditons? Parce que si nous ne lisons pas la parole de Dieu dans cette optique, eh bien c'est comme si nous lisions un autre livre, c'est même très contre-productif. Alors ici nous avons aussi une clé pour lire la Bible. La lecture spirituelle, celle que le Nouveau Testament a vraiment consacrée, c'est cette lecture qui est ancrée dans l'esprit et qui fait que la parole de Dieu devient vie, devient salut. Et Hébreux chapitre 4 aussi. Alors que si nous lisons la parole à la manière de la loi, de la Torah dans l'Ancien Testament, très souvent comme des commandements à apprendre par cœur et à appliquer bêtement, si je caricature un peu, elle ne nous sauvera pas. Donc le mot humblement aussi. Sommes-nous aussi persuadés que cette parole, c'est Jésus aussi, Jésus que nous accueillons, Jésus qui est la parole de Dieu. C'est dit dans l'Apocalypse, Jésus est la parole de Dieu. Son nom est parole. Je crois que c'est chapitre 19. Eh bien, si nous accueillons cette parole de Dieu qui est vivante par son esprit, c'est Jésus qui vient en nous, qui est semé en nous, hein, cette semence qui grandit, Matthieu chapitre 4, toute seule, hein, si on l'entretient par la prière, eh bien, sommes-nous persuadés que quelque chose a été planté en nous et que cela fait son chemin, et que ce qui nous incombe, c'est humblement d'accueillir cette action de la grâce qui a été semée en nous à chaque moment où nous prions, nous méditons la parole. Si nous savons accueillir la parole à chaque fois que nous prions et que nous la méditons, si nous savons accueillir Jésus dans un abandon à sa grâce, alors oui, nous serons sauvés, car elle fait son chemin. Marc chapitre 4. De même, pour ceux pour qui nous prions, sommes-nous convaincus que nous avons semé quelque chose en eux, par notre intercession, à chaque fois que nous prions pour eux? Dans ce cas-là, cela fait son chemin aussi en eux. Et pareil pour ce monde. Il faut savoir que cette parole, que l'Église sème la parole de Dieu en ce monde, même s'il ne veut pas l'accueillir. Et que notre rôle à nous, c'est, et à l'Église, c'est d'accueillir humblement cette parole, c'est-à-dire avoir la foi, avoir assez d'humilité et de foi pour croire que, dans le cœur de ceux pour qui nous prions, dans le cœur de ce monde pour lequel l'Église prie, et donc c'est nous, eh bien, cette parole, elle est semée, et elle est capable de sauver. Du coup, cela donne du sens au verset suivant. Mettez la parole en application, ne vous contentez pas de l'écouter, ce serait vous faire illusion. Alors, attention, ici il peut y avoir un contresens. Opposer la foi et les œuvres. Dire, bon, ben c'est bien joli, on écoute la parole, mais il faut agir, hein, il faut surtout pas croire que ça se fait tout seul. C'est pas le sens profond de ce que veut nous dire la parole de Dieu. Il faut retourner la perspective. Autrement, nous retombons dans l'ancienne alliance, c'est-à-dire vouloir par soi-même se sauver. Il faut croire ceci. Si nous croyons que la foi est première, que la grâce est déjà là, qu'elle est semée par notre prière, par notre intercession, dans nos frères, dans ce monde, en nos cœurs, alors la logique veut qu'à la mesure de notre foi, si nous y croyons vraiment, notre comportement change et que nous sachions agir différemment, modelé par cette conviction que Dieu agit dans le cœur de nos frères parce que nous avons prié pour eux, et qu'à la mesure de notre charité pour nos frères, de notre patience et de notre patience envers nous-mêmes, de notre patience envers ce monde, et bien que à la mesure de cette patience, nous prolongeons notre prière. Dans ce cas-là, tout a un sens. Parce que si nous agissons pensant que l'action est première, nous allons nous essouffler. Nous allons baisser les bras quand nous voyons que nos défauts ne font que persister, quand nous voyons que nos frères sont toujours aussi fermés, et quand nous voyons que ce monde ne change pas. Si par contre nous agissons, mais avec la conviction que cela ne fait qu'accompagner la grâce, comme Jésus, il avait les yeux fixés sur son Père, il savait que la grâce était première et que la croix était l'œuvre qu'il fallait accomplir pour que cette grâce agisse pleinement au cœur du monde. Si Jésus n'avait pas eu cette conviction, il n'aurait pas eu la force d'aller jusqu'à la croix. Jésus savait que son œuvre, hein, comme il dit, son œuvre, son heure, était vraiment nécessaire. Mais pas en tant que tel, mais nécessaire à ce que la grâce puisse pleinement se déverser. Eh bien, nos actes de charité, nos œuvres ne servent que à accélérer ce que la grâce fait déjà dans le cœur des hommes. Alors si nous avons vraiment cette perspective dans la tête, eh bien nous serons plus patients et nous ne découragerons pas. Quand nous voyons nos frères fermés, nous redoublerons de charité, sachant que, avec le temps, la grâce fera son œuvre et que la victoire est au bout du chemin. Pareil pour ce monde. Et si les gens pour qui nous prions se sont endurcis en apparence et viennent à mourir avant que nous voyions les fruits, ne croyons pas que la grâce est vaine, car ce qui se passe après et ce monde ne font qu'un. Ce que nous avons semé peut éclore dans la vie éternelle pour nos frères et pour nous-mêmes. C'est tout le sens du purgatoire. C'est tout le sens aussi de la descente de Jésus aux enfers. La croix porte des fruits jusqu'après la mort. Relisez la deuxième épître de Pierre, je crois que c'est la deuxième épître, chapitre 3. Et pareil pour nous-mêmes, ne soyons pas découragés. soyons sûrs que, après chaque chute, continuons nos efforts, et l'effort principal, c'est d'accueillir la parole de Dieu humblement, c'est de se laisser, de s'abandonner à la grâce de Dieu. Telle personne nous agace, abandonnons à la grâce de Dieu, pardonnons, parce que nous savons que Dieu vraiment est là pour bénir. C'est ça, s'abandonner. Et du coup, c'est ça, faire un effort. Pareil pour nous-mêmes, nous chutons, relevons-nous en étant persuadés que la grâce de Dieu fait son chemin. Voilà un bel effort. Voilà vraiment l'action par excellence, telle que Jésus l'a vécu au quotidien, se laisser façonner, s'abandonner à son Père en tant qu'homme. Donc, c'est pareil, donc vivons cette vie pensant que le ciel la conditionne. Le ciel est vraiment ce qui doit nous permettre de vivre cette vie pleinement. C'est ça, mettre la parole aussi en application. Alors après, le texte nous dit, je fais juste une petite parenthèse juste avant. Si vraiment nous vivons cette vie en pensant que tout ce que nous faisons est accompagnement de la grâce de Dieu, alors nous ne sommes pas là à essayer de nous gagner notre paradis dans l'angoisse. Nous vivons en coopération avec Jésus, que nous accueillons humblement et qui est déjà là et qui va nous sauver. Finalement, la vie, Jésus dit qu'il nous donne la vie éternelle dès ce monde, relisez Saint Jean. C'est-à-dire que dès ce monde, Jésus nous aide, nous façonne pour la vie éternelle. Donc, nous ne sommes pas là pour essayer de gagner notre paradis, mais pour vivre de plus en plus en coopération avec Jésus. Et cette coopération trouvera sa plénitude dans l'autre monde, dans le paradis. Finalement, cette vie n'est là que pour nous apprendre à vivre ce que nous vivrons pleinement de l'autre côté, c'est-à-dire la coopération, l'abandon plein à l'action de Dieu qui va nous façonner parce que nous l'accueillerons humblement et librement. Alors continuons. Devant Dieu notre Père, la manière pure et irréprochable de pratiquer la religion, c'est de venir en aide aux orphelins et aux veuves dans le malheur et de se garder propre au milieu du monde. Je ferai remarquer d'abord que quand Jacques nous parle d'agir, de venir en aide, etc., de pratiquer, il le dit, pratiquer la religion, c'est devant Dieu. C'est ce que je viens de dire. Notre Père, par notre relation avec Jésus, est là et il est devant nous, il est avec nous, en Jésus, à nos côtés, pour nous aider. Alors, il y a une ligne directrice que nous donne Jacques, parce que j'ai dit tout à l'heure qu'il fallait accueillir la parole de Dieu et agir avec la conscience, cette parole, elle agit en nous, en nos frères et au cœur de ce monde, et donc ça change tout. Et donc si cette parole, elle agit aussi, c'est-à-dire Jésus, parole vivante de Dieu, agit aussi en nos cœurs, ça veut dire que il faut savoir se laisser façonner par cette parole, et cette parole que nous accueillons humblement, elle est capable de nous rendre capables de la pratiquer. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que se dire, bon, ok, je vais faire des efforts, sachant que la grâce de Dieu est là, je vais aimer mon prochain, tout ça, c'est même pas ça. C'est l'effort suprême, c'est de se dire, je laisse la grâce de Dieu me configurer, me rendre capable, me qualifier pour faire les efforts. Vous voyez jusqu'où ça va? Donc quand je veux pardonner, eh bien demandons à Dieu la grâce de nous aider à pardonner. Et c'est donc Dieu qui est à l'origine de l'action, qui est au terme, c'est-à-dire qu'il va nous aider à pardonner, et parce que librement nous nous serons laissés, façonnés par la parole de Dieu, et qu'ainsi elle nous sauve, eh bien nous pourrons pardonner, et en ce sens-là, nous agirons, et nous dynamiserons cette grâce de Dieu au bénéfice de celui pour lequel notre pardon, a été fait, voyez. Donc, ici, c'est donc, il ne faut pas l'oublier, c'est donc devant Dieu. Et c'est ça la manière pure et irréprochable. Alors on parle de religion, c'est vrai que la foi chrétienne n'est pas d'abord une religion, ce mot est plombé. Mais si on prend le mot religion au sens premier, c'est-à-dire religion, c'est relier, relier à Dieu aux autres, alors oui. Comment essayer de nous relier à Dieu et aux autres de manière pure et irréprochable? Eh bien voilà la manière. Il y a deux choses. D'abord, venir en aide aux orphelins, aux veuves dans le malheur. Alors, évidemment, au sens littéral, donc, il faut aider les pauvres. Mais on se demande toujours pourquoi Dieu préfère les pauvres. Parce que la pauvreté dans les béatitudes, c'est aussi l'humilité, pauvre en esprit. pas le fait d'être pauvre matériellement. Il est vrai que plus on a de richesses matérielles, plus il est difficile d'être ouvert à l'action d'un autre, parce qu'on compte sur nos propres forces. C'est en ce sens-là que la richesse est un obstacle. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut, mais si on prend bien ce sens-là, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas d'argent. Mais venir en aide aux pauvres et aux veuves, c'est aussi, si on regarde bien, vous avez deux façons d'appréhender la relation avec un autre qui vous agace ou etc. Vous vous jugez sur l'apparence et souvent vous allez avoir un jugement cassant et une action en conséquence. Si nous voyons dans ceux qui nous irritent, dans ceux qui nous font obstacle, l'orphelin et la veuve dans le malheur, parce que n'oublions pas que tel ou tel comportement est souvent occasionné par une blessure. Si nous laissons façonner par Dieu, par cette parole de vérité justement, pour voir les gens d'une autre manière, mais comme des orphelins et des veuves dans le malheur, parce qu'ils n'ont pas Dieu, parce qu'ils ont telle blessure, alors nous réagirons très différemment à leur comportement extérieur, parce que nous aurons vraiment un éclaircissement, nous serons éclairés par le Père de toutes les lumières, et vraiment la parole de Dieu qui aura été semée en nous, elle nous rendra capables de sauver notre frère, parce que nous aurons un comportement tout différent. Donc sachons accueillir la veuve et l'orphelin dans le sens où nous devons vraiment regarder au-delà des apparences, penser que nos frères sont dans le malheur parce qu'ils n'ont pas Dieu, parce qu'ils ont eu telle ou telle blessure. Et de même, nous-mêmes, quand nous chutons, sachons vraiment mettre devant Dieu notre vie intérieure pour savoir quelle blessure génère tel comportement. Et alors regardons avec indulgence et bienveillance ce qui génère tel ou tel comportement, mais attention, non pas pour nous laisser aller, mais parce que nous sommes appelés à nous garder propres au milieu du monde. Ce n'est pas parce que nous avons un regard de bienveillance envers nos frères et envers nous-mêmes que nous devons être laxistes. Se garder propre au milieu du monde, c'est d'être lucide. Tel comportement est un péché chez notre frère ou chez nous-mêmes, ou tel comportement dans notre monde est un péché, telle structure de mort, etc., telle loi. Nous sommes appelés à être lucides. Mais c'est parce que nous sommes lucides que nous sommes appelés à y voir la veuve et l'orphelin. Telle personne se comporte mal, alors éclairés par Dieu, nous aurons un regard bienveillant et nous intercéderons pour lui et nous l'aimerons davantage. Nous-mêmes, nous savons maintenant sous regard de Dieu que telle ou telle chose que nous faisons est un péché, appelons un chat, et qu'il est généré par telle ou telle blessure, alors sachons mettre cette blessure sous le regard de Dieu. Alors oui, sachons accueillir cette parole de Dieu qui va être semée dans telle ou telle zone d'ombre, elle nous sauvera. Et alors nous serons qualifiés pour mettre en application cette parole, nous serons vraiment encouragés de faire des efforts, parce que nous savons que nous avons laissé le Seigneur venir dans nos orphelins et nos veuves, dans le malheur. Vous voyez ce regard qu'il faut avoir. Et sur ce monde, il faut avoir le même regard. Notre société déboussolée, ses lois iniques, etc. Eh bien, voyons vraiment ça comme un péché, mais voyons des hommes qui sont déboussolés, qui refusent Dieu, mais non pas parce que souvent, ils n'ont pas tous les éléments pour le refuser consciemment. Ils sont conditionnés, ils sont perdus. Ce monde, il faut le regarder avec bienveillance pour vraiment le dynamiser de l'intérieur, justement comme ces premiers appelés de toutes les créatures. Nous pouvons être ces premiers appelés, nous ne pouvons l'être, premier appelé, que si nous avons ce regard lucide qui va générer une bienveillance fort de la conviction que la grâce de Dieu va maintenant travailler dans telle ou telle zone de péché en ce monde, en nous-mêmes et en nos frères, parce que justement, nous avons eu ce regard lucide, de la lucidité qui nous fait accueillir humblement la parole de Dieu, et nous savons que la victoire est au bout du chemin. Nous sommes au bénéfice, nous sommes les alliés du roi, de celui qui va vaincre le mal. Donc, vous voyez, si je récapitule, nous sommes appelés à accueillir la parole de Dieu qui va nous donner un regard très différent, nous centrer sur le Père et nous enlever les idoles toutes passagères. Et fort de cette conviction, nous savons que nous ne sommes pas seuls, nous sommes devant le Père qui a semé quelque chose en nous, en nos frères, et nous sommes appelés donc à être les premiers appelés par la prière et l'amour, en justement accueillant de plus en plus humblement cette parole qui peut nous qualifier pour pratiquer la religion, c'est-à-dire qui peut nous qualifier pour avoir ce regard bienveillant, cet amour qui va aimer au-delà des apparences, la veuve et l'orphelin. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est une prière pour assimiler cette lecture, et puis un temps de prière. Vous pourrez vous joindre à moi, je laisserai des temps de silence. Et cet enregistrement sera fini quand vous entendrez fin de l'enregistrement. D'abord, prions le Seigneur pour qu'il nous aide à assimiler cette méditation. Seigneur, donne-nous l'intelligence plus claire de tes autres prophéties. Ouvre davantage vos sens à la vérité et fais-nous comprendre ce que tu as inspiré. En toi, Christ Jésus, notre Seigneur, à qui appartient la gloire et la puissance. Amen. Je vous propose de relire le texte avant ce petit temps de prière. Frères, les dons les meilleurs, les présents merveilleux viennent d'en haut. Ils descendent tous d'auprès du Père de toutes les lumières. Lui qui n'est pas, comme les astres, sujet aux mouvements périodiques ni aux éclipses passagères. Il a voulu nous donner la vie par sa parole de vérité, pour faire de nous les premiers appelés de toutes ses créatures. Accueillez donc humblement la parole de Dieu semée en vous. Elle est capable de vous sauver. Mettez la parole en application, ne vous contentez pas de l'écouter. Ce serait vous faire illusion. Devant Dieu, notre Père, la manière pure et irréprochable de pratiquer la religion, c'est de venir en aide aux orphelins et aux veuves dans le malheur, c'est de se garder propre au milieu du monde. Oui, Seigneur Jésus, d'abord merci, parce que c'est toi qui, en venant sur cette terre, nous a ouvert le chemin. Tu as su voir en nous, en cette humanité, les orphelins et les veuves dans le malheur. Tu as su vraiment tendre la main à tous les pécheurs, et tu nous regardes avec bienveillance, tu vois nos blessures. Mais tu es aussi celui qui, justement, est pleinement homme et pleinement Dieu. Tu es capable de nous aider parce que tu viens d'en haut. Oui, Seigneur, nous nous abandonnons à ta grâce, à ton amour, toi qui es pleinement homme et pleinement Dieu. Amen. Aide-nous, Seigneur Jésus, qualifie-nous pour être nous-mêmes les premiers appelés, le chemin. Oui, d'avoir ce regard de bienveillance vis-à-vis des pauvretés de nos frères, ces veuves et ces orphelins qu'ils ont dans leur cœur, dans leur vie. Aide-nous vraiment à avoir ce regard lucide et que cette lucidité génère en nous cette bienveillance, nourrie par cette foi que nous semons une parole et qu'elle peut sauver. Oui, alors Seigneur, nous pourrons mettre en application ce que tu nous demandes de faire, d'aimer au-delà des apparences. Seigneur, éclaire-nous, envoie-nous, Père, ton Fils, le cadeau par excellence. Amen. Ô Père, aide-nous vraiment, éclairés par ton Fils, à vivre en collaboration avec Jésus en ce monde. Vraiment, aide-nous toujours à considérer ce monde comme étant passager. Il n'a de sens que si vraiment il est centré sur toi, en coopération avec toi. Parce que la vie éternelle, comme tu le dis dans ta parole, en Jean 17, c'est de te connaître toi et celui que tu as envoyé, Jésus. Et bien que cette vie éternelle commence maintenant, et que cette connaissance de ta personne et de Jésus vraiment façonne notre façon de vivre en ce monde pour que nous soyons les éclaireurs. Amen. Et Seigneur, nous prions pour ceux qui sont victimes de l'astrologie. Vraiment, Seigneur, aide-les à comprendre que c'est une personne qui peut guider leur vie et non des forces obscures. Oui. Amen, Seigneur. Merci, chers internautes, d'avoir passé ce moment avec moi. Et je vous souhaite vraiment, dans le Christ, que cette parole qui a été semée en vous, à travers cet enregistrement, puisse vous rendre capable du salut. Amen. Fin de l'enregistrement.